Est-ce que la police aussi vous a suspecté à ce moment-là ?
Oui, ils m'ont interrogé sur le sujet. Après, voilà, ils ont vite compris que j'étais pour rien, j'ai jamais été inculpé de quoi que ce soit. Surtout qu'il n'y avait aucun lien avec les autres filles disparues.
Quand vous dites les autres filles disparues, c'est-à-dire ?
Bah, comment ça ? Elle vous a pas raconté, Audrey ?
Vous écoutez Empoisonné, épisode 3, Tueur en série. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode d'Empoisonné. Bonjour Vincent.
Bonjour Charlie.
J'espère que tu vas bien.
Très bien.
Très bien. Et ben moi aussi, parce qu'on a appris qu'il y a de plus en plus d'auditeurs qui écoutent ce podcast.
Oui, si on regarde les statistiques du site, ça augmente.
Bon, beaucoup dans l'Essonne encore pour le moment, ce qui s'explique par le bouche-à-oreille, j'imagine, des gens tels qu'ils se souvenaient de cette affaire-là.
Voilà, et notamment, on voit aussi dans les mails que vous nous envoyez, vous êtes plusieurs à venir de l'Essonne et à avoir des souvenirs de cette histoire, donc nous ça nous conforte dans l'idée que cette histoire a du sens et c'est intéressant de la suivre en fait, de creuser ce sujet.
Oui, ce qui est intéressant aussi c'est que y a plusieurs théories qui ressortent, comme on l'avait vu un peu dans le premier épisode. On a des gens qui pensent que c'est un tueur en série, on a la théorie des filles possédées qui est revenue.
Oui, de l'exorcisme étrange qui aurait mal tourné.
Je suis pas le seul à aller sur cette théorie.
Je trouve ça toujours étrange, mais bon, après...
En tout cas, nous, ça nous aide, comme tu as dit, parce qu'on a trouvé pour le moment qu'une seule disparition avérée, c'est celle de Sidonie Lamé, dont on a parlé dans l'épisode précédent. On n'est pas trouvé, par contre, de suivi à cette affaire, malheureusement. Mm-hmm. On ne sait pas donc ce qui est arrivé à Sidonie, si elle a été retrouvée, ça, on n'a pas d'infos. Par contre, on a réussi à trouver son blog de l'époque.
Oui, qui nous avait amené vers la piste de sa meilleure amie.
Qu'on a appelé dans l'épisode précédent et qui nous a dit qu'elle suspectait... un autre ami en commun qu'elle trouvait très bizarre qui aurait mal pris le rejet de...
Oui, voilà, ouais, c'est un amoureux éconduit qui, pour elle, serait responsable de la disparition de Sidonie.
Alors, on a quand même voulu l'appeler pour avoir sa version des faits. Il s'appelle Bruno, vous allez pouvoir entendre sa réponse, même si on s'excuse d'avance pour la qualité audio de l'appel. Pour être complètement transparent, lui expliquer ce que nous avait dit Audrey, il n'était pas surpris déjà.
Oui, non, il avait déjà entendu ces accusations. Puisque...
Il savait qu'il était suspecté à l'époque. Par contre, il nous donne sa version des faits, et vous allez voir qu'elle est assez différente de celle d'Audrey, justement.
Mm-hmm. Je suis tombé très vite amoureux d'elle. Moi, j'étais pas bien dans ma peau. Elle avait toujours l'air... hyper joyeuse, hyper positive, mais je voyais très bien que c'était qu'une façade. Certainement ça qui m'a attiré chez elle. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Ses parents qui étaient souvent absents, elle était tout le temps toute seule. Et je sentais bien qu'elle n'était pas aussi heureuse qu'elle le laissait paraître. Et je pense que c'est ça qui m'a attiré chez elle.
Mais quand vous lui avez avoué vos sentiments, ça s'est passé comment ?
Elle m'a fait comprendre que c'était pas réciproque et du coup ça a été un coup dur pour moi. Enfin j'étais mal, pour moi c'était une évidence, donc je l'ai mal pris. Après voilà, enfin je veux dire, si c'est pour ça qu'on me suspecte sur sa disparition, je trouve ça un peu violent quand même, parce que moi je l'aimais vraiment, mais vraiment profondément, et jamais me serais venu à l'idée de lui faire du mal, jamais. Elle faisait partie de moi, quoi, et donc plutôt crever que lui faire le moindre mal, c'est pas possible. Et c'est pour ça que ça a été encore plus dur pour moi qu'on me suspecte, en fait. Si vous voulez, c'était encore pire, quoi. Ça a été la descente aux enfers pour moi. Déjà, je me faisais jeter par Sidonie. Ensuite, elle disparaît. Ensuite, on m'accuse de l'avoir tuée. Enfin, on me regardait en tout cas comme si je l'avais tuée. Je crois que ça a été vraiment une des pires périodes de ma vie.
Bon voilà, bon, on comprend déjà que c'était assez dur pour Bruno à l'époque, on se met à sa place, un peu comme il dit, c'est un peu la triple peine.
Hein. Ouais, c'est ça.
On imagine, il était amoureux de cette fille qui le rejette, qui disparaît peu de temps après, et après tout le lycée
l'accuse.
Bon, c'est compliqué, c'est vrai que ça s'appelle et est un peu étrange pour nous.
Oui, c'est vrai que ça nous pousse à mis dans une situation un petit peu étrange, on passe d'une enquête assez virtuelle finalement, où... on trouve des pistes sur internet sans trop parler aux gens, et là on tombe sur quelqu'un qui est victime de la chose. C'est un peu, ça questionne un peu notre légitimité d'enquêteur amateur. Qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire ?
Oui, surtout que là on a le problème de qui croire, parce qu'Audrey nous dit quelque chose dans l'épisode d'avant qu'elle suspecte, lui forcément il nous dit que que ce n'est jamais arrivé.
Après, l'enquête semble avoir tranché, puisque si aujourd'hui il n'a pas été inculpé de quoi que ce soit, c'est que des gens avec plus d'informations que nous ont pris une décision. Donc,
Oui, c'est ce qui nous confirme, il n'a pas été inculpé du tout. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'il nous donne une autre raison qui nous pousse à le croire, qui remet en cause pas mal de choses.
Est-ce que la police aussi vous a suspecté à ce moment-là ?
Oui, ils m'ont interrogé sur le sujet. Après, voilà, ils ont vite compris que j'étais pour rien, j'ai jamais été inculpé de quoi que ce soit. Surtout qu'il n'y avait aucun lien avec les autres filles disparues.
Quand vous dites les autres filles disparues, c'est-à-dire ?
Bah, comment ça ? Elle vous a pas raconté, Audrey ?
Non.
D'accord. En gros, elle raconte ce qui l'arrange, quoi. Alors, à l'époque, en fait, plusieurs lycéennes qui ont disparu, comme Sidonie, à peu près de la même manière. Et les flics le savaient, puisqu'il y a eu une enquête commune.
D'accord.
Pour laquelle moi j'ai été entendu aussi, et pourtant j'avais rien à voir avec leur disparition. Donc,
parce que, en fait, nous, justement, on enquête sur cette rumeur d'une série de disparitions, mais pour nous c'était juste une rumeur. Là, vous nous confirmez, vous, qu'il y a eu une enquête de police sur des disparitions similaires?
Ah oui, il y a eu une enquête commune sur plusieurs filles d'autres lycées, des lycées où j'étais jamais allé, j'avais jamais même entendu parler. Donc, et c'était apparemment c'était le même type de disparition, c'était à peu près la même manière, quoi.
Et vous n'aviez pas d'explication à l'époque ou même aujourd'hui sur ces disparitions, justement?
Non, j'ai jamais compris. Surtout que, comme je vous disais déjà, bon, on m'a pas dit grand-chose, on s'est contenté de me poser des questions. Et non, j'ai jamais compris, mais justement, j'aimerais bien comprendre un jour, j'aimerais bien savoir, parce que finalement, je crois que c'est ce qui m'arrive le pire, en fait, c'est de pas savoir ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a rien de pire, en fait.
Bon, là, Bruno nous lâche une petite bombe, hein, en nous disant qu'il y a bien eu une enquête commune de la police. Parce que, selon lui, il y a eu plusieurs disparitions similaires à celle de Sidonie.
Oui, on partait d'une rumeur, puis d'une disparition isolée, et maintenant d'un groupe de disparitions.
Ce qui est marrant, je trouve, c'est qu'on a fait ce podcast à la base pour voir s'il y avait une part de vérité à la rumeur. Et maintenant qu'on voit qu'a priori elle est vraie, en tout cas c'est ce que nous dit Bruno, limite j'arrive pas à y croire, parce que ça me paraît pour moi dans ma tête c'est toujours une légende urbaine, en fait. C'est...
Ouais.
Et il y a la question de base qui revient, mais je trouve justement de manière plus concrète, c'est s'il y a vraiment eu cette série de disparitions, qui est responsable?
C'est vrai que directement ce qu'on pense quand on entend série de disparitions, c'est tueur en série.
Ouais.
C'est quelque chose qui revient assez logiquement, je pense qu'on est pas mal...
Oui, même dans les auditeurs, on a reçu pas mal de mails là-dedans, quoi qu'il y allait dans ce sens-là.
Ouais, voilà, ouais. Mais je pense qu'on est un peu influencé peut-être par les télés ou les... Mais en tout cas, c'est vraiment ça qui arrive à l'esprit directement.
Mais du coup, est-ce que c'est crédible, un tueur en série? Ça, nous, je pense qu'on n'a pas forcément...
En tout cas, moi, j'ai aucune idée de ça. Et...
À part avoir écouté beaucoup de podcasts de True Crime.
Et d'avoir lu beaucoup les articles du Parisien.
Ouais, c'est un peu limité. Du coup, on a décidé d'aller voir un spécialiste, donc forcément plus compétent que nous. Il s'appelle Éric Lédu. C'est un criminologue qui a notamment travaillé sur les tueurs en série. Et on a été voir pour lui demander ce qu'il pensait de cette affaire, si la théorie d'un tueur en série lui paraissait crédible. Et si oui, quel genre de profil il pourrait avoir, histoire d'aiguiller un peu la suite de nos recherches.
Éric Lédu, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir et de répondre à nos questions. Donc, quand nous vous avons évoqué l'affaire des lycéennes disparues, vous ne sembliez pas la connaître, mais est-ce que cette affaire vous rappelle d'autres histoires, d'autres affaires ?
Vous m'avez décrit que les personnes disparues avaient des symptômes, notamment des vomissements, des évanouissements, et en réfléchissant et en faisant le lien avec la période, ça ressemble beaucoup à des effets secondaires des drogues de synthèse. Et au début des années 2000, c'est le début de l'effervescence des drogues de synthèse, notamment dans les boîtes de nuit, et notamment du GHB, qui est plus connu sous le nom de la drogue du violeur. Le principe étant d'administrer à une potentielle victime le GHB sans qu'elle le constate, puisque le GHB a un effet amnésiant sur les victimes. Mmh. Donc les auteurs, les prédateurs sexuels, commettent des viols sur ces personnes et les victimes ne s'en souviennent pas. Et les effets secondaires sont des vomissements et des évanouissements à la D'accord. suite de l'administration de ce type de drogue-là. Par contre, ça n'explique pas les disparitions.
Mmh. Oui, d'accord.
Le seul lien que je pourrais faire entre les disparitions éventuelles et ce que je viens de raconter sur l'émergence des drogues de synthèse, ce serait potentiellement que ces personnes disparues aient été victimes d'un viol par prédation. Alors un viol par prédation, qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée qu'un prédateur sexuel se tienne à proximité d'un lieu de nuit et qu'il observe les comportements de ses potentielles victimes. Et donc il va potentiellement voir qu'un groupe de filles va entrer dans une boîte de nuit et que parmi ce groupe de filles, une seule va en sortir en étant très alcoolisée ou en étant sous l'effet d'une drogue comme le GHB. Mmh. Et lui, son mode opératoire, ça va être de se rapprocher de cette victime et de tout faire pour la raccompagner. Et s'il y arrive, donc la victime va monter dans son véhicule et il va raccompagner la victime chez elle et la violer. Mais à partir du moment où la victime entre dans la voiture, on peut imaginer qu'il puisse y avoir une disparition s'il commet ces atrocités ailleurs. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'en France, le ministère de l'Intérieur estime à environ 40 000 personnes qui disparaissent chaque année. Mmh. Ce qui est particulièrement important, un chiffre très important. Parmi ces 40 000 personnes, 30 000 sont retrouvées. Mmh. Mmh. Il reste 10 000 personnes qui disparaissent chaque année. Et parmi ces 10 000, un dixième sont des mineurs. Mmh. Donc on est sur environ 1000 mineurs qui disparaissent chaque année.
Est-ce que quand il y a deux personnes qui disparaissent, on est capable de les relier ? Parce que nous, on essaie un petit peu de faire ce lien en ce moment, mais est-ce que c'est la même chose du côté des enquêteurs ?
Pour ce qui est des disparitions inquiétantes, il existe notamment un logiciel qui s'appelle Salvac, qui recense à la fois ces disparitions inquiétantes, mais aussi toutes les affaires qui peuvent être sérielles en fait. L'objectif étant de pouvoir relier entre elles les potentielles affaires.
Est-ce que là, les symptômes que semblent avoir toutes les jeunes filles, c'est un élément qui pourrait être dans ce fichier-là pour les relier ?
Oui, c'est vraiment un logiciel qui est particulièrement détaillé. C'est-à-dire qu'il y a plus de 136 items où vraiment on peut aller jusqu'à la couleur du vernis à ongles de la victime.
D'accord.
Donc c'est vraiment très détaillé. On peut aisément imaginer que les symptômes des personnes disparues fassent partie de cette base de données.
Mais du coup, nous, on a eu plusieurs auditeurs qui nous parlaient de la théorie d'un tueur en série. Est-ce que ça vous paraît crédible ?
Alors, ça me fait toujours un petit peu sourire de faire référence aux tueurs en série, et notamment dans les années 2000, puisque j'enseignais la criminologie à cette époque-là, mmh. et c'était particulièrement la mode chez les étudiants de vouloir étudier. J'ai eu beaucoup d'étudiants qui voulaient faire leur mémoire sur les tueurs en série à cette mmh. époque-là. Malheureusement pour eux, et heureusement pour nous en France, il y a vraiment peu de cas de tueurs en série, et pour le coup... c'est assez rare qu'on soit en présence de tueurs en série qui auraient pu commettre 5, 6, 7, 8 meurtres dans sa carrière criminelle.
Mais est-ce que là, ce mode opératoire, donc quelqu'un qui empoisonnerait entre guillemets ses victimes pour ensuite les enlever, ça correspond à quelque chose qui a déjà existé dans le passé, même dans d'autres pays, ou pas à votre connaissance ?
Alors il y a même des tueuses en série, puisque ce mode opératoire d'empoisonnement va pencher vers un profil plutôt de tueur de sexe féminin. Mmh. Et pour le coup, ça a déjà existé. Mais à nouveau, ça n'expliquerait pas les disparitions. Un tueur en série, ça a souvent un ego un petit peu surdimensionné. Puis c'est assez rare qu'il y ait une réelle volonté de cacher un corps.
Mmh. Ça fait partie du plaisir de découvrir.
C'est ça.
Du corps,
ouais. Ce sont souvent des tueurs qu'on appelle des tueurs organisés, dans le mode opératoire, dans l'observation, dans le choix de la victime. Et pour le coup, il y a moins la volonté de cacher et de faire disparaître le corps.
D'accord. Donc pour conclure, Eric Lédu, quelle serait pour vous la théorie la plus probable pour expliquer ces disparitions ?
Alors ma réponse va pas forcément vous satisfaire. C'est vraiment difficile de se prononcer quand on n'a pas tous les éléments en main. Il me manquerait quelques informations, notamment sur leur profil, sur leurs antécédents, sur les circonstances des disparitions. Je pense que les circonstances peuvent vraiment avoir leur importance. Mmh. Il me manque quelques informations pour apporter une réponse particulièrement tranchée.
Merci encore à Eric Lédu d'avoir répondu à nos questions. Bon, grâce à lui, on y voit un peu plus clair sur ce qui semble plausible ou non pour expliquer les disparitions.
Ou à cause de lui, on peut oublier notre piste du tueur en série.
Oui, j'espère à raison, oui. Mais oui. En tout cas, ce qu'il nous a dit, ce qui est vrai, c'est qu'on fait sûrement fausse route à vouloir établir un profil d'un tueur ou d'un coupable, et vaut mieux se concentrer sur les circonstances, sur la disparition elle-même pour avoir...
Ouais, plutôt se concentrer sur les faits, essayer d'en recueillir de plus en plus, plutôt que de partir sur des théories...
Vaseuses,
ouais. C'est ce que j'ai compris dans ce qu'il nous a dit.
Non, mais c'est vrai, parce que nous, on s'est un peu intéressé à Sidonie Lamé, mais c'est la seule disparue concrète qu'on a, donc ça suffit pas. L'autre problème, c'est que le seul lien qu'on a avec cette série de disparitions, c'est Bruno qu'on a entendu au début, qui a été interrogé par la police dessus. Mais lui, il se souvient pas de grand-chose.
Ouais, et puis en plus, les enquêteurs lui ont pas forcément donné d'autres détails sur l'enquête. C'est-à-dire que...
Oui, parce qu'il était suspect, on le rappelle.
Oui, même s'il était témoin, dans tous les cas, ils ont leurs propres infos et ils les partagent pas avec n'importe qui.
Mais bon, on l'a quand même, comme c'était notre... C'était notre seule chance. On l'a quand même recontacté. On lui a demandé de puiser dans ses souvenirs s'il n'est pas peut-être un nom, un lieu qui lui restait en tête, qui pourrait nous donner une piste.
Après, c'est difficile parce que c'est un peu une période qu'il essaie de mettre derrière lui. Donc,
oui. Il s'est quand même souvenu d'un détail, c'est qu'a priori la police l'avait interrogé plusieurs fois sur la ville de Corbeil-Essonne.
Sur Corbeil-Essonne, oui. Ouais. On lui demandait s'il fréquentait cette ville, s'il y traînait, s'il avait des amis là-bas. A posteriori, ça l'a marqué, c'est-à-dire qu'il se rappelle.
Oui, parce que lui, il n'y allait pas. Quoi. C'est pas une ville qu'il connaissait.
Non, il fréquentait pas la ville.
Et on s'est renseigné à Corbeil-Essonne. Il y a deux lycées. Il y a le lycée Robert Doisneau et le lycée Saléon. Donc on les a contactés tous les deux pour savoir si quelqu'un du personnel avait le souvenir d'une disparition à cette période-là.
En sachant que c'est compliqué parce que comme ça faisait plusieurs années, le personnel avait changé, les gens qui étaient en poste aujourd'hui n'étaient pas ceux qui étaient en poste il y a 15 ans.
Ouais. Puis de contact à contact, on a réussi à tomber sur l'ancienne CPE du lycée Robert Doisneau, c'est-à-dire quelqu'un qui était en poste à ce moment-là, quoi, au début des années 2000, et qui, elle, se souvient d'une disparition d'une lycéenne. Elle se souvient surtout de son petit frère, qui était au lycée aussi, et qui a été, on peut le comprendre, dévasté par la disparition, et qui est en échec scolaire. Hein,
Elle avait essayé de le remotiver, de l'inciter à se concentrer sur ses études, justement pour passer un petit peu au-delà de la disparition de sa sœur, mais...
En vain, a priori.
En vain, oui, a priori.
Et grâce à cette CPE, on a pu avoir le contact de ce frère, qui s'appelle Valentin, et on l'a contacté pour savoir s'il souhaitait partager son expérience avec nous pour le podcast.
A priori, on pensait que ça allait être difficile, parce que peut-être que... Enfin, comme c'est une période assez dure pour lui, on s'est dit qu'il allait peut-être avoir du mal à en parler, ou pas vouloir, ou essayer de refouler ça, mais...
Bizarrement, c'était un peu l'inverse.
Ouais.
Il a tout de suite accepté de nous répondre, parce qu'il avait, je cite, « beaucoup de choses à nous dire ». Et notamment, selon lui, si cette série de disparitions n'a jamais été médiatisée, c'est pas du tout un hasard, et son ampleur est bien plus grande que ce qu'on croyait. C'est la fin de ce troisième épisode d'Empoisonné, merci de l'avoir écouté. Merci Vincent.
Merci.
Si vous avez des informations sur l'affaire des lycéennes disparues de l'Essonne, n'hésitez pas à nous contacter via notre site empoisonné.fr ou sur notre groupe Facebook @empoisonné. On vous donne rendez-vous au prochain épisode pour la suite de l'enquête.